Alors, avant d'entrer dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, j'aimerais revenir en arrière sur la fin de la séance précédente pour défendre le texte et son écriture, puisque une question qui a été posée tout à la fin, et vous n'avez pas pu profiter des réponses qui étaient possibles, c'était pourquoi l'évangile de Jean est-il écrit comme ça? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de flot de contestation sur la rédaction, sur le style de Jean, considérant qu'une écriture à caractère symbolique était inutile. Est-ce qu'on ne peut pas dire les choses plus simplement, telles qu'elles sont? Alors j'aimerais développer deux arguments pour justifier l'écriture de l'évangile de Jean et des textes bibliques. Le premier argument, c'est un argument pédagogique. C'est de dire que ce style d'écriture, qui est à la fois narratif et comment dire discursif, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des récits un peu comme des contes, voilà, on raconte des histoires et en même temps il y a des éléments de réflexion, en quelque sorte des sentences, eh bien il me semble que ça permet de toucher un lectorat plus large. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément bien équipé pour se laisser émouvoir, bouleverser et convertir par une parole qui serait purement intellectualisante. Les récits, c'est aussi ce qui permet d'entrer dans une histoire, d'entrer dans une démarche. C'est la raison pour laquelle les contes pour enfants valent souvent mieux que les leçons de morale brutes de décoffrage. S'il n'y a pas l'histoire qui va avec la leçon de morale, la morale n'est pas en général digérée par l'auditeur. Ça, c'est l'élément pédagogique, mais ce n'est pas l'élément qui me semble décisif. L'élément qui me semble décisif, c'est que le seul discours théologique possible, c'est un discours symbolique. Et je m'appuierai sur Paul Tillich. Ne pensez pas que c'est juste une lubie de ma part. C'est Paul Tillich qui dit que le seul discours théologique possible, c'est un discours symbolique. Pourquoi? Parce que le symbolique, c'est ce qui renvoie à au-delà, nécessairement. Paul Tillich dira que le symbolique, c'est à la fois ce qui participe à un événement et ce qui nous renvoie à au-delà de l'événement. Autrement dit, si on considère que Dieu et la foi, c'est notre préoccupation, notre souci de l'ultime, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation et de l'universalisation, il faut nécessairement un discours à caractère symbolique, parce que le symbolique, c'est ce qui renvoie à plus que ce qui est écrit. Autrement dit, d'un point de vue théologique, le symbolique, c'est ce qui nous sauve du littéralisme. Si le discours n'était pas symbolique, ça veut dire que si on disait les choses telles qu'elles sont, en l'état, alors le texte deviendrait lui-même divin. Ce serait encore pire que le Coran, parce que même les musulmans considèrent qu'il y a un travail d'interprétation dans la rédaction du Coran par le prophète, à supposer que ce soit vraiment une seule personne qui ait rédigé le Coran. C'est-à-dire que même les musulmans font une distinction entre Dieu et le Coran. Si nous avions un texte qui prétend être divin, alors effectivement, il ne faudrait pas l'interpréter, il ne faudrait même pas l'écouter en fait, parce que ce serait blasphématoire d'y avoir accès. Oui. Je le dis dans des catégories littéraires. Le texte biblique, c'est un grand mythe. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif. Le mythe, c'est l'organisation de plusieurs symboles qui nous permettent d'accéder à une partie non matérielle de l'existence. Parce que le symbole permet d'aller au-delà du mot, au-delà de l'image, il nous permet d'atteindre des choses qui sont non sensibles. Et donc, le mythe, c'est le fait de rassembler des figures et des actions qui parlent du divin, donc qui parlent de ce qui concerne l'homme de manière ultime. Et le mythe, dans la logique de Paul Tillich, doit être brisé. Ça veut dire qu'on doit avoir la conscience que c'est du mythe et que ça renvoie à autre chose. qu'il faut découvrir le sens qui est derrière. Non pas se contenter de ce que ça dit, mais chercher ce que cela veut dire. Et donc, Paul Tillich dit, les chrétiens refusent de recevoir le mythe en l'état. Le travail du christianisme, c'est de briser le mythe. Non pas de le supprimer ou de le remplacer, mais de le briser comme on briserait un sceau pour ouvrir la lettre et l'utiliser. Autrement dit, c'est éviter de faire du texte une idole. Exemple typique, Jésus qui marche sur l'eau. Soit on considère qu'il n'y a rien à interpréter, que Jésus a techniquement, physiquement, matériellement marché sur l'eau. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que Jésus est capable de défier les lois de la physique, les lois de la nature. Il va contre nature. Soit on considère que c'est un mythe au sens littéraire du terme, et on cherche le sens qu'il y a derrière cela. Et on peut considérer que Jésus qui marche sur l'eau, qui représente ce qui tue, parce que la noyade était une expérience au cœur de l'histoire des Hébreux, qui n'était pas un peuple de marins, eh bien, ça permet de dire que Jésus est celui qui est capable et qui rend capable, puisqu'il fait sortir Pierre de la barque, qui nous rend capable de surnager dans ce qui pourrait être à première vue une cause de mort. C'est-à-dire surnager dans nos problèmes, par exemple. Surnager dans des situations qui auraient tout pour nous noyer. Voilà, donc, pourquoi est-ce que le texte de l'évangile de Jean est écrit comme cela de façon symbolique et pas de façon immédiate? Parce qu'il n'y a pas d'immédiateté dans le divin. C'est-à-dire que le caractère absolu de la théologie n'est pas atteignable de manière immédiate, mais toujours par ricochet. Est-ce que au niveau de la justification, ça va ou...
Ça va, mais ça déconcerte.
Bon, si ça déconcerte, c'est plutôt bon signe.
J'essaie de penser qu'il marche sur l'eau.
Non, ouais. Justement, ça rassure.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que...
Ça veut dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Dans la perspective de Paul Tillich, dire Dieu, c'est déjà trahir Dieu. Dieu est au-delà de Dieu. Dieu est au-delà de nos idées, de nos concepts, de nos définitions, etc. Et la Bible n'est pas parole de Dieu. Tillich va jusqu'à dire qu'une des caractéristiques du symbole, c'est qu'il grandisse et qu'il meure. Donc dans une certaine mesure, les symboles doivent être dépassés. Et le texte biblique ne doit pas être le point d'arrivée, mais plutôt un point de départ ou une étape sur le chemin de notre spiritualité. Dieu est au-delà du texte biblique, en tout cas. L'évangile de Jean commence comme cela. Hein. Le logos ne s'est pas fait livre, il s'est fait chair. Donc c'est dans notre capacité à interpréter le texte qu'il y a quelque chose de l'ordre de la parole divine qui peut s'entendre, se percevoir. Mais le texte, à l'état brut, ça, encore plus quand c'est une traduction, c'est un écran qu'il faut dépasser, ou sur lequel se reflète quelque chose qui est de l'ordre de la parole de Dieu. Bon, l'évangile de Jean est sauvé. Pour cette fois-ci, ça va. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Bon, tant mieux, parce que c'est maintenant que ça se gâte, parce qu'on va prendre le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, qui, de mon point de vue, est loin d'être le meilleur des chapitres. Et je veux bien essayer de vous le défendre, mais franchement, c'est pas gagné d'avance. Donc, j'ai besoin de vous. Je vais pas me forcer, mais on va quand même... Il y a des choses intéressantes, mais... À côté de ce qu'est l'évangile de Jean, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Alors je vous fais passer une feuille sur laquelle figurent le texte grec et le texte français. Derrière, il y a un autre texte que nous lirons par la suite. Pour l'instant, prenez sous les yeux Jean chapitre 10. Et puis ce que je vous propose, c'est de commencer par une lecture de la version française. Donc si un, deux ou trois pouvaient se répartir la lecture, ce serait très bien. Et puis, je vous donnerai quelques éléments par rapport au texte grec pour vous faire découvrir des petites choses. Voilà. Donc, si quelqu'un veut bien entreprendre la lecture de ce chapitre 10, peut-être quelqu'un qui lirait les versets 1 à 6, ensuite 7 à 10, et puis après la fin, ça permet d'avoir comme ça trois unités de sens. 1 à 6 peut-être déjà, et puis ensuite quelqu'un qui prend 7 à 10. Oui.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, et qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
Très bien. Quelqu'un qui prend la suite jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 10.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Quelqu'un peut prendre la fin du texte, peut-être ? Oui ?
Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient : Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?
Merci beaucoup. Alors, quelques éléments dans le texte grec, soit culturel, soit exégétique. Bon, le côté culturel, c'est le verset 1. Les voleurs, ce sont les kleptès. Vous savez, ça donne kleptomane. Donc voilà, vous savez que kleptomane, maintenant, ça vient de la racine grecque. Ça, c'est un grand bénéfice pour vous. Le verset 3 est déjà plus intéressant. Le verset 3, avec la question du « il les conduit dehors », c'est « hexago ». Donc il y a « ex », et puis « ago », c'est le fait de « aller ». Conduire dehors, c'est en fait la geste de Moïse. Vous voyez, on entend ici la geste de Moïse qui va produire l'exode, qui va conduire hors de la terre d'Égypte son peuple, le troupeau en fait. Donc on a ici un élément qui peut alerter notre mémoire. Au verset 4, une règle de grammaire intéressante, plutôt que « ta zoatrekei, ta probata akulotei ». C'est-à-dire qu'on a un sujet qui est au pluriel, et un verbe qui est conjugué au singulier. Pourquoi ? Parce que le sujet est au neutre.
Voilà.
Voilà. Oui, mais c'est tatsua trekei, donc l'équivalent c'est approbata kutei. Donc voilà, plutôt que tatsua trekei, vous pouvez sortir l'autre formule en cours de grec pour dire qu'un sujet neutre pluriel implique un verbe au singulier. François est heureux de cette information. Bien. Ensuite, au verset 6, vous avez dans la version que je vous ai donnée, qui est une seconde, le mot parabole. Bon, en fait, il n'est pas du tout question de parabole. Le texte qui. Le mot grec, c'est paroimian. Paroimian, en fait, c'est plutôt proverbe. C'est d'ailleurs le terme utilisé dans la Septante pour parler du Michal, qui est le proverbe, dans Proverbe 1. Christian n'est pas complètement convaincu par cette traduction. Mais c'est parce que c'est souvent traduit par parabole. Allégorie ? Signe, c'est plutôt séméion.
Excusez-moi. C'est parabole, non ?
Oui.
Discours figuré.
Discours figuré. Ah, oui. Similitude, parfois.
Discours figuré, oui.
Ouais.
Proverbe, hein.
D'accord. Il n'empêche que quand vous faites un petit travail de concordance, vous voyez que dans Proverbe, chapitre 1, c'est le mot utilisé pour traduire ce qui donne les proverbes en français. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une parabole comme on en a l'habitude. En fait, le mot, d'ailleurs, parabole est inconnu chez Jean. Et à mon avis, c'est parce qu'il s'agit de proverbes qu'il y a un petit caractère pénible dans ce texte. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus va travailler sur des proverbes, sur des lieux communs, sur des images d'Épinal. Et notre travail, c'est de voir comment il travaille dessus. Mais en soi, les images d'Épinal, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant, quoi. Bon, voilà. Je pense que c'est à cause de ce matériau premier que c'est pas le meilleur chapitre qui soit, pour moi.
Ouais. Puisqu'on est sur ce verset-là.
Oui.
Qu'est-ce qui ne le construit pas ?
Qu'est-ce qui ne...
C'est parce que le mot était inadéquat ? C'est parce
que... Non, c'est que...
C'est le proverbe qu'ils ne comprennent pas, c'est la parabole,
c'est l'image.
Ils ne comprennent pas l'intérêt de l'image pour leur situation. On va voir quelle est leur situation. On va après reprendre l'ensemble du texte. On va voir que ça fait lien avec Genèse, avec Jean 9, en fait, avec ce qui précède sur l'aveugle de naissance.
Parce que ce qui précède le verset 1, c'est quand même quelque chose qu'on comprend bien.
Non, non, justement. Non, c'est qu'avant ce qui précède, c'est Jésus qui guérit un aveugle de naissance. Ça a commencé à cliver, à faire du schisme, et personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Où beaucoup n'étaient pas d'accord parce que ça leur causait trop bien et qu'ils comprenaient qu'ils étaient incriminés par le propos de Jésus. Et ça va être repris tout à la fin, puisqu'il y a l'argument de « mais pourtant, il ouvre les yeux des aveugles ». Donc, en fait, c'est un texte qui est inclus dans Genèse, dans Jean 9. Dans Jean 9. Et donc, le contexte, il est celui de cet aveugle de naissance dont on se demandait s'il n'était pas pécheur. Et au fond, on commence par dire que cet homme aveugle ne serait pas pécheur, et puis ça finit par « vous les pharisiens, là, c'est pas vous, en fait, les pécheurs et les aveugles ?» Bien. Au verset 9, « il sera sauvé », donc c'est le verbe « sozo » classique, mais c'est un verbe assez important, parce que c'est le verbe qui parle du salut. Vous savez, on dit parfois que le christianisme est une religion du salut. Eh bien, il est question de ce salut ici. Et donc la question est de savoir, on est sauvé de quoi ? Vous savez, c'est toujours la question que posent les protestants libéraux. On parle du salut, mais on est sauvé de quoi ? Bon, eh bien là, en fait, on a un élément de réponse. Et l'élément de réponse, il faut le prendre avec deux autres éléments. Le premier, c'est que au verset 10, les brebis et la vie, hein, c'est Zoé. Donc il faut... Notre salut, c'est le fait qu'on a Zoé, et non seulement on l'a, mais en plus on l'a en abondance. Et périsseo, c'est surabondé. Hein? Donc, kai périsson ekosin, et nous l'avons de manière surabondante. C'est cette idée que la grâce abonde, non, la grâce surabonde là où le péché abonde. Hein? Là, c'est surabondé. Il y a de l'excès. Il y a plus que nécessaire.
C'est toujours la même idée de débordement.
Presque, oui.
Qui revient, qui est revenu plusieurs fois dans nos études.
Oui, c'est ça, c'est du débordement. Ensuite, le verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors on peut avoir l'impression qu'il s'agit encore de Zoé, mais en fait pas du tout. Le bon berger, il donne quoi? Il donne sa psyché. Ah bah ouais. Ouais. On peut avoir l'impression qu'on pinaille. La psyché, c'est ce qui donne le psychisme. C'est en fait l'âme, en langage théologique. Vous savez que en langage théologique, la cure d'âme, c'est ce que dans d'autres lieux on appelle la psychothérapie. C'est du grec. Psyché, c'est l'âme. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais Zoé, c'est la vie.
La vie organique.
Non, non, parce que la vie organique, ça serait le bios, en fait. Zoé, c'est déjà la vie sociale, un peu. C'est... Le vivant, c'est les animaux capables de se reproduire. Non seulement tazoatrekei, mais en plus, ils se reproduisent. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il doit y avoir un terme agréable. Il y a un terme grec pour parler de la reproduction, c'est sûr. Voilà. Donc, Jésus qui donne sa psyché, qui donne son âme. C'est intéressant parce que souvent on a l'idée que Jésus se sacrifie, vous voyez, comme s'il tirait une croix sur sa vie. Et bien en fait, donner sa vie dans ce texte, c'est en quelque sorte partager ses qualités humaines. Vous voyez, si je voulais le dire à des enfants, je dirais comme ça. Il fait profiter l'autre de ses qualités, de ses compétences, de ses vertus. Moi, il me semble que l'âme, une façon d'en parler, c'est de dire que c'est notre capacité à nous tenir devant Dieu. C'est la capacité du vivant à se tenir devant Dieu. Donc, notre capacité à nous laisser saisir par des vérités ultimes, par des préoccupations fondamentales. Vous voyez, je continue à utiliser le vocabulaire de Paul Tillich. Ça a donc un rapport avec Jésus qui s'adresse à ses disciples au moment de la scène, mais plus encore quand il parle de la paix. Vous savez, le ressuscité dit « Je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». C'est-à-dire qu'il est dans une logique du don et pas dans une logique du donnant-donnant. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un peu comme s'il disait, au fond... Ma qualité de fils de l'homme, eh bien, je la mets à votre disposition. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire que je vous rends capable d'être vous aussi fils du Dieu vivant. C'est-à-dire être capable d'incarner le Logos. Voilà. Vous êtes des êtres capables. Voilà. Et cela, ça se vérifie, je ne sais pas, mais... On le voit un peu plus loin au verset 18. Au verset 18, vous voyez, il dit qu'il a le pouvoir, il a le pouvoir de la reprendre, le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Dans le pouvoir, il y a un petit peu le côté suzerain, dominant, etc. En fait, c'est l'exousia. Exousia, c'est intéressant. Bon, il y a ex, hors d'eux, et ousia, en fait, c'est ce qui donne l'essence. C'est-à-dire que l'exousia, c'est ce qui est au-delà de l'essence. Donc c'est l'autorité, on parle souvent de l'autorité. C'est là encore une sorte de surabondance de l'être. Ousia, c'est l'être. Et exousia, c'est ce qui est hors de l'être, c'est ce qui est donc plus que l'être. C'est pas hyperousia, ça serait dans le pain de... du Notre Père. Ex-Ousia, c'est ce qui va un peu plus loin que l'Ousia. C'est ce, là les prémices de l'existentialisme, en fait. Hein. C'est-à-dire que je suis vraiment moi-même par le regard de l'autre. Je suis vraiment moi-même, je suis vraiment un jeu parce qu'un tu est là, parce qu'un tu existe. Et tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Pareil, l'ordre, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on impose, une sorte de tyrannie, de dictature. Entolé, c'est le commandement.
C'est bizarre.
Tu es passé quand même un peu vite sur le verset 17. Moi, ce verset...
Qu'est-ce qui est intéressant dans le grec du verset 17?
J'attends. Non, ce verset, moi, me pose vraiment un problème. Je ne comprends pas.
Oui.
Le dernier, parce que je donne une aïe, afin de la reprendre.
Oui.
Il donne une reprendre. J'ai l'impression à le lire.
Là,
je ne connais pas le grec. Hein.
D'accord.
Je suis obligé de
reprendre la
traduction.
Afin de la prendre à nouveau.
Pourquoi? On a l'impression que c'est un peu perfouettard.
Alors on verra ça quand on sera dans la question du sens. Là, je reprenais les éléments du grec. Mais si vous avez une question aussi,
la même chose. D'après saint Augustin, c'est pas la même vie. Il reprend la vie en tant qu'homme pour reprendre la vie divine.
Ça c'est psyché quand même.
Il donne sa vie en tant qu'homme pour reprendre la vie divine.
Bon, bah, ça on pourra évoquer les différentes hypothèses quand on va y arriver, oui.
Dans le texte, c'est
une sorte de transformation, il y a une sorte d'échange.
Ah, c'est pas joué,
non, non, on reste au grec, justement. Donc, entolé, c'est le commandement qui est proche de la Torah, en fait. C'est l'équivalent de la Torah. Et vous voyez, on a une vision de la Torah qui est quand même moins perfouettard, justement. Le commandement... Moi, je pense que c'était un de mes professeurs de dogmatique, Jean-Louis Klein, qui m'en avait donné une bonne définition. Le commandement, c'est la parole du Père. C'est-à-dire que c'est la parole qui aide l'enfant à devenir adulte. Et on le trouve ici assez bien. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Telle est la parole. Vous voyez, il y a une sorte de surdétermination. Bon, c'est pour vous dire que la traduction française pourrait nous donner l'impression d'un dieu dictateur. J'ai le pouvoir, je donne des ordres. En fait, c'est l'exousia et l'entolé. C'est le fait d'être, à la limite, d'avoir une existence large et puis d'avoir une parole qui prend soin de la génération suivante. Voilà. Et donc, le verset 21 va nous permettre de reprendre le début de notre texte, puisque c'est clairement une référence à l'épisode qui précède dans Jean chapitre 9. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? C'est justement ce que Jésus avait fait juste avant. Bien. Alors, maintenant, on va reprendre donc le texte. Et cette fois, on rentre dans le texte et on va utiliser la traduction française avec ses petits éléments grecs supplémentaires. Et on va voir comment ce texte fonctionne et comment il ne fonctionne pas aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un vrai problème au niveau de l'enchaînement logique des idées. C'est-à-dire que c'est un texte irrationnel. C'est pour ça qu'il est un peu problématique quand même. Parce qu'en fait, il va enfiler des proverbes. Et donc, forcément, la suture n'est pas toujours très nette.
Il n'y a pas eu des ajouts au fil du temps dans la rédaction
Y a-t-il eu des ajouts au fil du temps? C'est tout à fait possible. Ah. Une hypothèse de Marie-Émile Boimard, c'est que il y a la dernière écriture de l'évangile de Jean est faite par celui qui finalise l'évangile de Luc. C'est le même chirurgien plasticien à la fin. Ce qui est manifeste, c'est que l'auteur ou les auteurs ici utilisent différents éléments pour les rassembler et en faire une unité. Ce qui fait unité, c'est quoi ici dans le texte? Qu'est-ce qui donne l'impression que ces 21 versets constituent bien une entité à part entière? Mais sur le plan littéraire, quel est le vrai fil conducteur? Parce que la porte, elle n'y est pas tout le temps. Il y a quelque chose qui est plus présent, c'est plutôt proche de la bergerie, en fait, c'est le troupeau. C'est-à-dire qu'il y a l'image de la brebis, en quelque sorte, qui sert de fil conducteur. Et on va organiser autour de cela la matière dont on dispose, qui est en quelque sorte convoquée parce qu'elle est de près ou de loin en rapport avec le thème de la brebis. Mais a priori, il y a des éléments qui sont ensemble et qui n'ont rien à faire ensemble, si ce n'est qu'ils ont un point commun, c'est la brebis. Donc c'est le chapitre qui est la théorie de la brebis, mais en fait plusieurs théories sur la brebis. Et après, il y a la tremblante de la brebis. Bien.
Et est-ce que toutes les traductions parlent de brebis et pourquoi pas de mouton ?
Alors, toutes les traductions parlent de brebis parce que probaton, en fait, c'est effectivement une brebis.
Ah bon.
Donc, c'est que les traductions sont plutôt justes.
C'est exact.
Oui. Bon. Alors, on va commencer par le premier proverbe, la première similitude, les versets 1 à 6. Oui. D'accord. Ceci dit, un proverbe fonctionne sur les similitudes. Mais dans le côté proverbial, il y a bien cette idée qu'on tire une leçon de la petite histoire qui est racontée. Mais ça va fonctionner comme les contes de fées de Grimm, par exemple, hein, ces histoires-là. L'idée, c'est de faire une topographie de la vie pour les petites brebis que nous sommes, comme le font les contes de Grimm. Donc la première similitude, donc là on retrouve bien la patte de Jean avec le amen amen lego imin. En vérité, je vous le dis. Je vous rappelle que amen, c'est à la fois la vérité, mais aussi la solidité, la fermeté. C'est ce qui donne emouna, la foi. Quoique j'ai entendu il n'y a pas très longtemps le rabbin Pauline Beb dire que dans le Premier Testament, il n'était jamais question de foi. Donc pour elle, la emouna, ça ne relève pas forcément de la foi. Voilà, vous l'interrogerez sur ce sujet. Amen, c'est le cri du chamelier quand le nœud de la caravane est suffisamment solide pour que la bête ne se perde pas. Ou la petite brebis. Donc on a l'image de la bergerie et de la porte de la bergerie. Et tout de suite, le kleptomane et le brigand. Oui, on commence par dénoncer. Non, mais c'est redoutablement efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, c'est le genre de texte qu'on a un peu du mal à entendre le jour de son baptême ou de son mariage. Ce n'est pas entièrement positif, il y a aussi du négatif. Mais précisément, l'évangile de Jean est là pour que les petites brebis innocentes que nous sommes deviennent lucides et accessoirement un peu futées comme les renards, les vipères ou je ne sais pas quel animal.
C'est la suite du verset 9, non ?
Il y a effectivement une sorte de mise en garde qui précède parce que tout ce texte va se construire sur la mise en garde qui correspond au texte dont je vous ai parlé, que vous avez heureusement oublié, qui se trouve derrière votre feuille. C'est Ézéchiel 34. Alors on ne va pas apprendre Ézéchiel 34 parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Mais on peut imaginer que l'auditeur de Jésus a Ézéchiel 34 en tête, parce que contrairement à nous, il a appris à lire et à écrire dans la Bible, et donc Ézéchiel 34, ça fait partie des histoires qu'il connaît bien. Je vous résume Ézéchiel 34, c'est Dieu qui dit au prophète Ézéchiel, il y a comme qui dirait un petit problème, c'est que ceux qui sont censés être les bergers de mon troupeau, donc ceux qui sont censés être les chefs pour le peuple d'Israël, se comportent mal et ne prennent pas soin du troupeau. Ils vont même laisser le troupeau un peu à l'abandon et le troupeau risque de dépérir. Moralité, Dieu dit au prophète, c'est moi qui vais devenir le berger d'Israël. Et il est rappelé la figure emblématique du berger d'Israël, c'est David, hein, dont il est question au verset 23 notamment. « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. » Alors, il ne s'agit pas de ressusciter David, mais c'est de restaurer la figure de David pour en faire le modèle du berger. Et on va voir au fil de notre texte Jean 10 qu'il y a comme cela des références régulières à Ézéchiel 34. Et on a comme élément de comparaison le fait que dès le verset 2, on voit que les pasteurs, les bergers, en fait, pillent le troupeau. C'est le verset 2. « Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. » Donc, c'est l'idée que les pasteurs de l'époque se servent sur le dos de la bête. Et en fait, si on se souvient que Jésus est en train de parler aux pharisiens, eh bien, on voit un peu ce qu'il est en train de leur expliquer à ces joyeux auditeurs. C'est qu'il continue à les accuser, non seulement d'être pécheurs et d'être assez aveugles, mais en plus de se servir. C'est-à-dire de pervertir leur mission, non pas être au service d'eux, mais se servir d'eux.
Est-ce que, à propos d'Ézéchiel aussi, les brebis, par essence, ce sont des êtres qui sont toujours menacés, soit par des kidnappeurs qui viennent les voler, soit, comme dit Ézéchiel 34, verset 7, une brebis est au pillage. Elles sont menacées que le repliquer au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Mmh. Ce qui était valable tout le temps. D'Ézéchiel, c'est toujours valable aujourd'hui.
Ouais, oui, oui. Oui, il paraît que les loups sont aux portes de Paris. Et d'ailleurs, dans Jean 10, il sera question du loup. Ouais. À mon avis, l'intérêt, il est là, d'ailleurs, dans ce texte. Il va y avoir plusieurs menaces identifiées qui sont encore valables aujourd'hui. Là, la menace qui est identifiée, c'est la menace du gourou, dans ces six premiers versets. Le gourou, qui est celui qui rassemble des brebis, et qui les tond, ouais. Et qui s'engraisse sur le dos des brebis. Certainement, il y avait ce proverbe qui devait traîner dans la culture ambiante pour essayer de se prémunir de ces faux bergers, de ces gourous qui, sous paraître de religion, en fait, exploitent les personnes qui placent leur confiance en eux.
Les fausses croyances qui étaient valables à l'époque.
Alors là, c'est moins les fausses croyances que les abus de confiance. Parce que il n'est pas question du contenu de la croyance. Vous voyez, on parle plutôt de la qualité de la relation. Et ce qui est frappant, c'est que ici, ce sont des personnes dont on va repérer qu'elles ont un comportement problématique, malsain, parce qu'il n'est pas franc. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la porte de la bergerie, on passe par le côté, on se fait un petit chemin, on rentre en douce. On rentre en douce. Vous voyez, on pourrait effectivement le dire de façon plus évidente. Les gens qui manœuvrent pour y arriver sont quand même assez suspects. Bon. Sauf que quand on a dit ça, on a un propos qui correspond à une situation très particulière et qui n'est pas aussi universalisable que ce petit conte symbolique qui renvoie à beaucoup d'autres situations. Donc, méfiance à l'égard des personnes qui, comme cela, manœuvrent en douce, tirent un peu les ficelles pour essayer de récupérer quelques bénéfices. La personne qui va, en quelque sorte, franco par la porte d'entrée n'est pas forcément innocente. Mais en tous les cas, on la voit venir, disons. Elle est identifiable. Et alors, elle est d'autant plus identifiable que la question de l'identification intervient après. C'est avec la question de la voix et de la reconnaissance vocale. Il est question de savoir la voix du berger. Alors, c'est un peu étonnant, cette histoire de voix, parce qu'on a l'impression que ça, c'est, comment dire, juste une histoire de fréquence, vous savez, comme les ordinateurs qui reconnaîtraient la voix de quelqu'un et qui, du coup, ouvriraient les portes du trésor, etc. Pourtant, c'est bien le son dont il s'agit ici, hein, c'est phoné. Donc, ce n'est pas ce qui est dit, mais c'est la manière dont les choses sont dites. Eh bien, il me semble que nous pourrions voir là l'idée que notre sensibilité au timbre de la voix, mais je dirais à l'authenticité de la voix, est un critère qu'il ne faut pas négliger. Oui, discerner la vérité, effectivement, c'est, comme vous le disiez, cette disposition de l'enfant à comprendre ce que ses parents expriment vraiment, indépendamment du contenu. C'est-à-dire qu'un enfant, au départ, ne comprend pas la langue des parents autrement que par la forme, hein, que par la fréquence vocale, les modulations, etc. Et moi, je fréquente des petits filous à la maison qui sont capables de me dire « Mais pourquoi est-ce que tu ris quand tu ris pas ?» C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils font des imbéciles, donc il faut que je leur dise qu'ils font des imbéciles, mais moi, ça m'amuse. Mais je n'ai pas le droit de leur dire que ça m'amuse. Sauf qu'eux le perçoivent, parce que je ris alors que je ris pas. Bon, eh bien, en fait, il y a un peu cette idée-là, mais à l'envers. C'est-à-dire que quelqu'un veut avoir le discours mignon, séducteur, etc. Mais on se rend compte que le miel est empoisonné. Hein, trop beau pour être honnête, presque. Bon, on sent qu'il y a un problème. En tous les cas, c'est tout sauf une disqualification de notre intuition personnelle. Et beaucoup de personnes disent que celui-là, je le sens, celui-là, je le sens pas. Bon, en fait, l'expression est malheureuse. Il faudrait mieux dire celui-là, je connais sa voix, celui-là, je ne connais pas sa voix. Et il y a cette idée selon laquelle la forme peut trahir le cœur de la personne. Et beaucoup de communicants disent, vous savez, la communication, c'est 20% de verbal et le reste, 80%, c'est du non-verbal. Et l'école de Palo Alto, qui travaille sur le discours, le langage, disent que le corps est quand même ce qui communique le plus et qu'on peut facilement savoir si quelqu'un pense ce qu'il dit, en fait, à le voir. Il y a même une série à la télé qui... non, c'était pas Mentaliste, c'était quelqu'un qui observait une personne et pouvait être un détecteur de mensonges par rapport à ses attitudes en l'ayant testé sur quelques formes. C'était le docteur Liar, c'était comme le mensonge, c'était Liar ou quelque chose comme ça. Lie to me, c'était Lie to me. Lie to me. Bon, voilà. C'est l'idée selon laquelle ce que l'on perçoit peut nous dire quelque chose de l'authenticité de la personne et de ses intentions bonnes ou mauvaises, c'est surtout ça. Est-ce que la personne qui vient a de bonnes ou mauvaises intentions ? Ce n'est pas tant la question de la vérité que la question des intentions. Est-ce qu'il est là pour mon bien ou pour ma perte ? Et donc la familiarité fait qu'on pense l'autre en termes d'étranger ou pas. Et vous voyez, il y a la responsabilité des brebis de fuir éventuellement, de prendre la poudre d'escampette. C'est-à-dire que la brebis, effectivement, c'est l'animal fragile, mais qui a une responsabilité, c'est de rester ou de partir. Et donc, c'est un texte qui nous dit, vous, en tant qu'individu, membre d'une communauté, qui, dans une certaine mesure, faites confiance à quelques leaders, vous avez cette responsabilité de rester ou de partir. C'est-à-dire que vous êtes équipé pour ne pas vous faire embrigader. C'est à vous d'exercer votre esprit critique pour savoir s'il est bon pour vous de rester dans ce lieu ou pas. Et donc de vous méfier des gourous. Avec voix de velours. Jésus leur explique cela et les gens ne comprennent pas. Est-ce que ça t'éclaire un peu, François, sur ce qu'ils ne comprennent pas ?
Moi, je ne me réfère pas par rapport au chapitre 9.
Oui.
Je me réfère par rapport à l'épisode de Bon Berger.
D'accord. Ok.
Moi, je suis sûr qu'ils comprennent, mais ils ne veulent pas en avoir rien. Mais ça, très bien, ils connaissent bien l'Ancien Testament.
Oui.
Ils connaissent bien ce...
ce passage, oui.
Ce passage. Mmh.
D'autant que Ézéchiel est vraiment fameux. Bien sûr. Ou alors, moi j'ai fait une autre hypothèse, c'est qu'ils sont comme le docteur Watson. Il y a beaucoup de docteur Watson dans la Bible. C'est-à-dire qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ont tout à disposition, mais ils ne comprennent pas. Ils n'en font pas un bon usage, comme le docteur Watson qui a tous les indices, mais il faut que Sherlock Holmes explique comment les indices fonctionnent ensemble pour expliquer la situation. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, on pourrait le dire de vous aussi, de nous, je veux dire, moi je suis avec vous. On peut se faire avoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte d'habitude qui s'installe, qui anesthésie notre clairvoyance. Et donc Jésus est en train de leur dire, méfiez-vous des pharisiens qui sont en train de vous embarquer dans quelque chose qui n'est pas fabuleux pour vous. Mais au fond, ils ne peuvent pas le croire. Et ils sont trop habitués. Et donc, il va falloir que Jésus développe une deuxième similitude. Parce que là, ça fonctionne quand il y a un nouveau berger qui arrive. Mais quand c'est le berger familier qui pose problème, eh bien, il faut un deuxième critère de discernement, disons.
Entre la perception réelle, totale, matérielle, et la compréhension par l'intelligence, il y a presque spirituelle, il y a toujours dans un texte ou dans une conversation, il y a toujours deux niveaux.
Oui.
Et on a souvent pendant la guerre où il y avait des interrogatoires difficiles, souvent on sentait ça. Il y a une situation un peu difficile, un peu délicate. Et plus elle est dangereuse, plus elle est délicate, on sentait la compréhension à deux niveaux.
Oui, François.
On bute en fait sur la traduction paradoxe. Ça serait plus compréhensif si on emploie le mot similitude. Parce que, on pourrait dire que les auditeurs qui entendent Jésus comprennent ou ont l'impression de comprendre qu'ils, par cette petite histoire, il attaque les pharisiens et qu'il assimile les pharisiens aux voleurs.
Oui. Et à ceux qui sont incriminants, Ézéchiel 34.
C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Là, c'est trop gros.
Ouais. C'est énorme.
C'est énorme. Ils rejettent. C'est ça qui.
Et c'est pour ça qu'il va devoir y revenir par vagues successives.
Ouais. Le mot parabole n'est peut-être pas le mot adéquat.
Oui. Je suis heureux que tu fasses ce constat-là parce que ça justifie le fait que je vous ai mis le nez là-dessus pour vous dire que c'était une traduction malheureuse et que vous disiez proverbe ou que vous disiez similitude, c'est vrai que on peut voilà, il faut peut-être faire un petit décalage de traduction. Oui, Philippe. Je croyais que tu. D'accord. Très bien. Oui. Qu'est-ce que la bergerie ? Donc, la bergerie va avoir deux intérêts ici. Bon, la bergerie, c'est d'abord le fait de pouvoir nommer le lieu où se réunissent les brebis. Donc, aujourd'hui, si on compare notre assemblée à un troupeau, on pourra dire que l'église, c'est la bergerie. Ou que la maison presbytérale, c'est la bergerie, l'oratoire, c'est la bergerie. Dans d'autres circonstances, on pourra parler d'un pays ou d'une nation comme d'une bergerie. Et donc la question, ça sera est-ce qu'on ferme les frontières ou pas, puisqu'on va parler de la porte. Et donc le premier intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir nommer, non pas oui, enfin, l'enclos, mais surtout l'ensemble. Voilà, l'ensemble. Et les bergeries ont une caractéristique que l'on trouve notamment en Provence avec certains édifices. C'est-à-dire qu'on a une construction avec une porte au sens d'ouverture. Mais il n'y a pas de porte au sens de panneau qui coulisserait ou qui pivoterait. Et donc là, c'est le berger qui se met dans l'embrasure de la porte pour faire obstacle. Et donc la bergerie présente ici l'intérêt que sur le plan architectural, ça rend possible une métaphore qui est « nous sommes la porte ». Enfin, en l'occurrence, c'est Jésus qui va dire « je suis la porte ». Et donc c'est le sas.
La protection. Alors,
pas que la protection, on va voir, oui.
Puisqu'on est là à s'interroger, à fouiller,
oui.
Le portier,
oui.
La policière,
eh bien, alors justement, c'est là où on voit qu'il y a des problèmes, c'est qu'on s'attendrait à ce que Jésus dise « Je suis le portier ». Mais on va voir qu'il va dire qu'en fait, il est la porte, mais après qu'il est le berger. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout à la fois, donc on peut dire qu'il n'est rien non plus, quoi, vous voyez. Il ne dit pas qu'il est la brebis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, une fois de plus, c'est la brebis, en fait, qui va être le centre de chaque histoire. Donc, Jésus va intervenir, il va être l'un des acteurs, mais au fond, il n'est pas au centre de l'histoire. C'est toujours la brebis qui est au centre de l'histoire. Et Jésus, lui, il ne sert qu'à remplir des blancs de l'histoire pour que l'histoire puisse continuer. Mais enlever Jésus, et l'histoire est encore possible.
Portier et berger, c'est la même chose, hein ?
Non ? Non, non. Ah non, non, un portier... Oui, on peut dire qu'à un moment donné, c'est le berger qui fait office de portier, ou qui fait office de porte. Sauf que là, on a des textes différents qui renvoient à des réalités différentes. C'est-à-dire qu'on a... une bergerie avec porte battante, dans un cas, et bergerie avec juste ouverture, où le berger fait office de porte. Parce que qui dit portier dit qu'il y a quelque chose à ouvrir ou à fermer. Et du coup, on n'a pas la même bergerie dans une similitude et dans l'autre. Hein ? Quand vous n'avez... Comment dire ? C'est utile d'avoir un sacristain quand il y a des portes à ouvrir.
Oui.
Ouais.
On n'a jamais un portier qui ouvre un volet.
Non, mais c'est le mot porte qui ouvre un
volet. Parce qu'il y a un témoin.
Alors. Maintenant, les versets suivants, les versets 7 à 10, avec la métaphore de la porte, justement. Où on a non plus des repères d'ordre spatiaux, mais chronologiques, temporels. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc là, vous voyez, c'est pas ceux qui sont là, c'est Ce sont ceux qui étaient là avant. Ça veut disqualifier ceux qui ont eu quelques prétentions messianiques auparavant. Ceux qui, en quelque sorte, ont prétendu avoir un savoir absolu et définitif, et qui ont fait errer le troupeau. Dans l'évangile de Matthieu, on a ça au moment du sermon sur la montagne, quand il y a les nombreuses répliques « on vous a dit que, mais moi je vous dis », où Jésus rétablit la vérité. Soit parce que le texte primitif a été déformé, soit parce que la tradition a ajouté des choses qui n'étaient pas du tout dans l'esprit du texte biblique originel. Mais, oui.
Tu parlais de gourou tout à l'heure.
Oui.
C'est vraiment ce que disent les gourous. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs.
Oui.
Des brigands. C'est l'engage de...
Mais nous sommes bien d'accord. Ne pas se méfier de Jésus, ce serait problématique. Mais bien sûr, c'est pas parce que quelqu'un a Jésus sur les lèvres en permanence que c'est un honnête homme. Jésus lui-même le dit bien. C'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que vous entrerez dans le royaume. C'est-à-dire que Jésus, là, à ses interlocuteurs, propose de la critique interne, méfiez-vous pour de bon de tout le monde. Et plus tard, il dira, c'est un bénéfice pour vous que je m'en aille, de toute façon.
Non, Jésus ne dit jamais, méfiez-vous de moi-même.
Non, il ne le dit pas. Il vous le fait comprendre, c'est quand même mieux. Et quand il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je disparaisse, que je m'efface, comme Jean-Baptiste l'avait fait à l'égard de Jésus. Quand il y a l'ascension, bon, je veux dire, c'est bien parce que à un moment donné, il faut que nous fassions valoir et notre instance critique, mais tout simplement notre être. C'est qu'à un moment donné, il faut être adulte, donc sevrer. Il faut que nous vivions notre histoire, notre vie. Il faut qu'à un moment donné, nous soyons nous-mêmes producteurs de ces paroles-là. Et pas simplement le réceptacle qui emmagasine comme magazine. Mais c'est quand même pas un texte où, je suis d'accord, où Jésus met le doigt sur le fait que lui-même est un danger et un problème. Mais c'est que si on veut être honnête, il faut aussi nous méfier de tout ce qui a une étiquette Jésus, Christ, chrétien, protestant, etc. C'est-à-dire que il n'y a rien qui nous prémunisse sinon les éléments qui nous sont donnés là. Quand on voit tous ceux qui n'entrent pas par moi sont des voleurs, comment est-ce qu'on peut comprendre cela ?
On peut le comprendre que Jésus s'exprime d'un ton extrêmement violent à l'égard de ceux qui sont susceptibles de le critiquer dans l'exercice de son ministère. Ça s'explique du fait qu'il n'est pas encore arrivé au terme de son ministère, mais en quelque sorte, là, il met les bouchées doubles. Hein, il veut vraiment, assurer, son leadership, le terme n'est peut-être pas très bon, sur le peuple. Et alors là, il met vraiment les bouchées doubles. Deux fois, il dit « Je suis la porte ». C'est très important. Et deux fois, et peut-être même plus d'ailleurs, il dit « Je suis le bon berger ». Et alors là, c'est vraiment une position, si vous voulez, à la fois peut-être théologique, peut-être même politique d'ailleurs, on ne sait pas, hein, en ce qui concerne son attitude à l'égard de ceux qui les écoutent, c'est-à-dire du peuple, et en particulier des représentants déjà du peuple que sont les prélats de l'époque. Voilà le sentiment qu'on a. Et alors tout ça se décontra par la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, sa position est très dure.
Ah oui.
C'est la conclusion qu'on peut dire.
Alors, elle peut être celle de Jésus à l'égard des pharisiens, ou elle peut être celle de la communauté joannique à l'égard des premiers leaders des communautés chrétiennes primitives.
Oui. Hein ?
Soit ça se réfère au temps de Jésus, soit ça se réfère quelques dizaines d'années plus tard, au moment de la rédaction de l'Évangile. Et on sait que dans les épîtres de Jean, il y a quand même une sérieuse polémique vis-à-vis de la communauté, parce qu'elle risque de se faire séduire. Et on peut se dire que l'une des tentations de la communauté joannique, c'est la tentation gnostique. Hein, c'est de verser dans cette connaissance gnostique où on va s'enfermer dans une communauté qui est la communauté de ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une initiation, et parce qu'ils ont cette initiation, ils sont sauvés. Et bien ici, il me semble qu'on a une sorte de dénonciation de cela, parce que faire partie de la communauté chrétienne, ce n'est pas être reclus dans une communauté, c'est avoir la possibilité d'y être et d'en sortir à volonté. Et à mon avis, c'est pour cela qu'il va y avoir un jeu sur « je donne, je reprends », qui est l'équivalent du « on peut rentrer, on peut sortir ». Si vous n'avez pas la faculté de sortir, c'est que vous êtes prisonnier, méfiance. C'est comme le mariage. Si vous ne pouvez pas divorcer, méfiance. Ce n'est plus le mariage, c'est autre chose.
Dans cette parabole, dans ce texte, Jésus dénonce ceux qui rentrent par ailleurs.
Oui.
Ils cherchent à rentrer pas par la porte.
Oui.
Alors, dans la parabole du paralytique, voilà, au contraire, les amis qui descendent par le toit, qui retirent par les tuiles, etc., ceux-là, ils ne sont pas dénoncés, au contraire.
Parce qu'ils viennent apporter quelque chose, ils ne viennent pas prendre quelque chose. Ils ne sont pas venus exfiltrer un paralytique, ils sont venus en offrir un. Mais là, on était sur quelque chose de plus délicat, c'est quand il n'y a pas de bien matériel en jeu. C'est-à-dire que là, c'est la question de la psyché, hein, du psychisme. Est-ce que le leader, est-ce que le berger est structurant vis-à-vis du psychisme des personnes, ou est-ce qu'il est déstructurant, par exemple? En fait, c'est une question que pose ce texte. Est-ce qu'il vient construire ou est-ce qu'il vient détruire? Bon. Ça, c'est une question qu'il faut se poser en tant que brebis. Et si on se rend compte que c'est déstructurant, il faut en tirer des conséquences.
J'ai encore le mot déstructurant, mais Jésus est souvent déstructurant.
Oh non.
Du psychisme? Oui, mais parce qu'il déstructure des structures qui sont mortifères. C'est-à-dire que Jésus ne déstructure pas le psychisme des personnes, éventuellement il les délie, c'est-à-dire qu'il les déligote, il libère. Mais si Jésus rendait les gens malades, ça serait effectivement problématique, il faudrait passer à autre chose. D'ailleurs, moi, je considère qu'il y a certaines communautés qui se revendiquent de Jésus et qui font quand même pas mal de dégâts psychiques. Eh bien, ça doit être disqualifié, ça. Le délit de manipulation mentale, il est là, en fait. Le délit de manipulation mentale, c'est quand la personne est dépouillée d'une partie d'elle-même, à l'insu de sa volonté, ou lorsque elle est assignée à résidence. C'est-à-dire que, vous savez, le principe de la secte, c'est que certains liens deviennent interdits. Il y a une rupture avec la famille, dit-on, on a des lieux qu'il ne faut plus fréquenter. Voilà, quand on est interdit de certaines personnes, interdit de certains lieux, eh bien, ce texte nous dit, soyez vigilants, il y a peut-être anguille sous roche.
Tous les éducateurs le savent bien.
Et sans le dire.
Mais il faut le dire parce que les éducateurs ne sont pas tout le temps là. C'est-à-dire que l'intérêt de cet évangile, c'est de nous équiper individuellement parce que nous avons notre propre vie à mener sans avoir tout le temps un pasteur sur le dos. Vous imaginez l'angoisse pour le pasteur d'être toujours avec les paroissiens. La tuile.
Quand il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, etc.
Oui.
Il ne fait pas allusion aux prophètes.
Non, non, non. C'est pas les prophètes, c'est les.
Les pharisiens.
Les pharisiens qui se croient.
Oui, mais il peut aussi désigner certains chefs d'Israël. Mais c'est-à-dire que le livre des rois, les livres des rois, quand même, présentent pas mal de rois d'Israël qui ne sont pas spécialement réputés pour leur bien-être. Oui. Non, non, mais David, il est berger d'Israël, et c'est cette qualité de berger qui en fait un roi. Parce qu'en fait, le bon roi, c'est le bon berger. Puisqu'il mène un troupeau. Le prophète, c'est celui qui est le contre-pouvoir du roi. Donc forcément, le prophète est dans une situation idéale, puisque le prophète, c'est celui qui donne des coups de pied dans la bergerie, c'est celui qui pousse les brebis à sortir, ou qui au contraire leur dit d'aller voir ailleurs ce qui se passe, que l'herbe est aussi verte ici qu'ailleurs, etc. Enfin bon. Pour le roi, les choses sont plus compliquées, puisqu'il exerce une sorte de pouvoir qui n'est pas forcément du côté de l'exousia, mais qui peut être du côté du daimon, du démon en fait. Et la question est de savoir, est-ce qu'on a un pouvoir qui libère ou est-ce qu'on a un pouvoir qui asservit? Est-ce que notre pouvoir stimule ou est-ce que notre pouvoir contraint? Toute la logique, la dialectique entre le besoin et le désir. On dit que le besoin c'est ce qui ligote et le désir c'est ce qui délie. Que faut-il satisfaire?
Quelle est la différence avec le mercenaire?
C'est que le mercenaire est payé pour faire son travail. Et du coup, ce qui est relevé ici, c'est que le mercenaire... Vous allez voir où ça va nous mener cette histoire. Le mercenaire, parce qu'il a la question du salaire en tête... Eh bien, il ne se sent pas responsable de manière ultime. C'est-à-dire que s'il voit qu'il y a le moindre danger, eh bien, il quitte le bateau. Parce qu'il vaut mieux perdre la solde que perdre la vie. Parce qu'il n'est pas intimement lié à la question.
En quoi cela pourrait être transmis au prélat, au pasteur
C'est-à-dire que si on payait bien les pasteurs, ça serait problématique, je pense. Parce que, du coup, ils pourraient partir dès que la situation est un peu enquiquinante. Alors que si on ne fait pas ça pour l'argent, du coup, on le fait pour d'autres raisons qui sont peut-être plus intéressantes. Et peut-être qu'on peut considérer que c'est intéressant quand un pasteur, un prêtre, un rabbin, un imam se sent personnellement concerné par le sort de la communauté. Qu'il y est fortement impliqué. Et que dans une certaine mesure... Il y joue sa vie et qu'il y donne sa psyché plutôt que son temps. Et Jésus ne donne pas son temps, il ne donne pas son argent, parce que de toute façon c'est Judas qui l'a. Il donne sa psyché. Eh bien, je pense que c'est là que les choses sont intéressantes de nos jours encore. Quand un leader est franchement bien payé, et il y en a qui sont franchement bien payés, je ne parle pas des pasteurs en Alsace-Moselle, eux ils sont payés, mais des gens qui sont vraiment bien payés. Mais ça risque de ne pas durer, on verra le 22 février. Le 22 février, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité du fait que les pasteurs soient payés par l'État en Alsace-Moselle.
Et les rabbins aussi
Non, ça concerne que les protestants. Parce que l'Église catholique, ça ne marche pas parce que c'est un accord d'État à État. Et pour le consistoire israélite, ça n'a pas été présenté devant le Conseil constitutionnel parce que sinon, ça aurait été suspect d'antisémitisme. Donc les protestants, ça marche. Donc, dans des sectes où les leaders auteurs, effectivement, s'enrichissent personnellement de façon manifeste, on peut s'interroger sur l'authenticité du lien qui les unit et du coup de leur degré de responsabilité vis-à-vis de la communauté. Le mercenaire est susceptible de battre rapidement en retraite, et d'ailleurs ce qui arrive. On va le voir après, le mercenaire qui n'est pas le berger. Alors peut-être qu'on passe justement au verset 11 à 18. Où Jésus va se prendre pour le bon berger. Mais, je voulais laisser comme ça, mais au verset 11, les hellénisants, c'est vraiment bon berger dont il est question ? Kalos, c'est bon ?
C'est beau.
En fait, c'est le beau berger. Ouais, c'est le beau berger, c'est ça qui est sympathique. Faut pas être moche, quoi, pour être berger.
Ah ouais.
Après, il faut s'entendre sur ce qu'est la beauté. La vraie beauté, elle est intérieure, vous le savez bien, enfin, Françoise.
Bien. Kalos, c'est chaud.
Oui, c'est pas la bonté, hein. C'est la beauté. C'est l'esthétique, c'est l'ordre de la grâce. Ouais. Ouais, il y a des catégories comme ça, sauf que là, il n'est pas question du vrai, il n'est pas question du bon, il est question du beau, simplement. Voilà, tirez-en les conséquences que vous voulez. Donc, on a un rappel aussi de ce que Jésus avait fait pour les noces de Cana, avec l'histoire du vin, le beau vin. Ce n'était pas le vin qui est bon au sens généreux, c'était le beau vin. On passe de la brebis au bovin. Bien. Donc, facilement. Donc, c'est peut-être là qu'il y a un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur donner sa vie, la reprendre, avec le fait qu'il y a peut-être une histoire de vie mortel et une vie divine. Peut-être que vous pourriez reprendre un peu votre intuition. C'était Augustin, vous me disiez, mais...
Il y a deux vies. Il y a une vie en tant qu'homme pour le Christ qu'il donne. Il est venu sur terre pour ça. Et il reprend sa forme de divine en ressuscitant.
Oui. Donc c'est peut-être effectivement cette opposition entre cité terrestre et cité céleste, hein, qui conduira aussi à la doctrine des deux règnes chez Luther. Mais on pourrait se dire, avec justement ce lien avec la parabole de la noce de Cana, qu'il y a peut-être un changement d'état. C'est-à-dire que le fait d'en passer par Jésus fait que nous ne sommes plus la même personne et que nous accédons à un état supérieur, à une autre qualité de vie. Peut-être aussi un autre regard sur la vie. Ce n'est pas que nous nous métamorphosions comme dans les contes d'Anderson, mais que nous nous métamorphosions comme dans les contes de Grimm. Je cherche la différence.
Il y a quand même quelque chose là. Entre donner sa vie, le Père m'aime parce que je donne ma vie.
Oui.
Afin.
Oui. Ina. Oui. On pourrait dire afin de la recevoir. Lambano, c'est un peu recevoir plutôt que prendre. Hein, c'est plus recevoir que prendre. C'est-à-dire que... Non, je vais vous dire pourquoi prendre et recevoir, c'est tout à fait différent. Parce que c'est ce qui fait la différence entre le mariage et la bénédiction nuptiale. À la mairie, vous prenez votre conjoint pour époux, et dans un temple, dans une église, vous le recevez comme époux. Et... entre prendre quelqu'un et le recevoir, moi je trouve qu'il y a une singulière différence. Parce que d'un côté on se sert, et dans l'autre on accueille.
Non, là c'est pas prendre, c'est reprendre.
Non, c'est je le reçois de nouveau. Enfin, c'est pas l'in, c'est à nouveau. Oui, c'est une nouvelle fois. Ou de nouveau comme... C'est comme je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous. C'est pas l'in. Du coup, il y a une sorte de nouveauté, d'inédit. Vous voyez, il y a à la fois l'idée de répétition, mais il y a aussi l'idée de nouveauté dans cette histoire.
Comment le grec ?
Paline.
Comment verset, là.
Oui. Ben, comme toi, peu de choses près, c'est-à-dire que... donc, je pose... En fait, titémie, c'est poser. Donc, moi, je pose ma psyché, je ne traduis pas, disons, mon âme, bon, je pose ma psyché afin de la, de la recevoir à nouveau.
Au retour, peut-être.
Non, parce que si c'était résurrection, ça serait soit de la réveiller, soit de la relever, enfin de la lever ou de l'éveiller. Là, c'est vraiment, je te confie, et puis après, je récupère. Je pose, et après, je reprends. Mais l'idée, c'est pas, je donne, et je te reprends alors que je te l'avais donné. Parce que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Mais là, il reprend pas, parce qu'il a pas donné, il a posé. C'est-à-dire qu'il confie... Et ensuite, comme le maître a confié ses talents, il les récupère. Mais la personne qui a eu les talents dans les mains n'est plus la même personne, elle est enrichie.
Oui, c'est le feedback. Ça, ça.
On va continuer la métaphore des prélats. Un jour, vous avez un pasteur, et puis après, il s'en va. Eh bien, c'est ça la vie. Hein. C'est-à-dire que... un jour, il y a un pasteur qui arrive, il vous offre des... il met des choses à disposition, puis un jour, ben, il quitte ses fonctions, il reprend sa liberté, et il va dans un petit monastère tranquille à Rome, et pour autant, il ne vous a pas volé de quoi que ce soit, il ne vous a rien pris, au contraire. Et c'est pas comme si, comme si c'était un prêt sur gage ou quoi que ce soit. Exactement.
Et le fait qu'il apprenne sa vie divine, ça collerait avec l'idée qu'il existait de toute éternité en tant que verbe. Puisque dans Salomon, dans le Proverbe 8, j'existais avant la fondation, enfin parlant de la sagesse, de la parole, j'existais avant la fondation du monde. Les mondes ont été fondés par...
Dans la sagesse, oui. Oui. Il y a... Alors, il faudrait, dans ce cas-là, distinguer, à mon avis, le Jésus que les disciples ont sous les yeux et le Christ qui est, justement, chaque fois que nous sommes capables d'avoir une vie... correspondent à ce qu'il a montré ou ce qu'il a incarné. C'est-à-dire que, précisément, quelque chose est déjà d'actualité avant le Jésus de l'histoire, le Jésus historique, et ça se manifeste par lui. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Dieu, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Est-ce que c'est pas une allusion justement à la croix, hein?
Non.
Jésus donne sa vie, pendant tout son ministère, il donne sa vie, et puis voilà, il accepte qu'elle soit reprise.
Par qui? Ça veut dire que c'est Dieu qui met Jésus sur la croix pour reprendre sa vie? C'est quoi cette satisfaction vicaire, là?
Pourquoi est-ce que c'est lié au Père? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre.
Mais reprendre, c'est pas reprendre.
Oui, moi aussi, parce que on n'achève jamais l'interprétation d'un texte. Le Père, dans ce texte-là, est celui qui est du côté de l'entolé, du commandement, de la parole qui fait vivre, la parole créatrice. On peut dire Père créateur. Mettons, le Père, ça serait plutôt ce qui est de l'ordre de la création. Et donc le Fils, c'est celui qui est de l'ordre de l'accomplissement. C'est celui qui, non seulement rend crédibles ces paroles-là, mais montre qu'elles peuvent être vivables. Et... Mais je sais, j'ai une histoire pour vous. C'est un jour, un propriétaire de brebis, il a 17, je ne sais plus combien il a de brebis. Ah ouais, ça ne va pas marcher. Bon, vous trouverez le nom après. On va dire qu'il a 19 brebis. Je ne sais pas, 17 peut-être. Bon. Et puis il meurt et il a laissé un testament. Et dans son testament, il dit, eh bien voilà, je donne la moitié pour mon fils aîné, deux tiers pour mon fils cadet, et puis un sixième pour mon troisième fils. Mais il a 17 brebis. Alors, comment on fait? Alors du coup, ils vont voir Jésus, le sage. Il dit, comment on va faire? Et alors, je me suis trompé dans les nombres, mais c'est pas grave, vous rectifierez. Et Jésus les interroge sur la nature du testament, et il dit, pas de problème. Il prend sa brebis, il l'ajoute, ça fait 18. Puis après, ils font les divisions de ça, et puis chacun repart, et à la fin, il en reste une. Ça veut dire qu'il a posé sa brebis, et après, il la récupère. Mais ça règle le problème. Bon, vous trouverez les équivalences avec les fractions, mais on n'est pas loin de 18-20. Non, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir pour retrouver les bonnes fractions, mais... Où il se pose lui-même, vous voyez, comme vous voulez. C'est comme Paul qui dit, Jésus, c'est à la fois l'arche d'alliance, le couvercle de l'arche d'alliance, la brebis, le sacrifice, etc. Bon. On récapitule tout autour de Jésus, mais en fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans ce texte, le héros de tout cela, c'est la brebis, c'est nous quand même. Hein. Nous qui sommes capables de certaines choses. Pourquoi on est capable? Parce que justement, Jésus vient poser quelque chose qui permet de décentrer, qui permet de reconfigurer, et après, il peut repartir, la situation est reconfigurée, et elle va mieux. C'est-à-dire que Jésus est un fournisseur de solutions. C'est un prestataire de service qui fait ce qu'il promet. C'est en ce sens qu'il pose afin de récupérer. Pourquoi ? Parce que s'il ne récupère pas, en fait, il occupe l'espace. C'est-à-dire qu'il prend notre place. S'il ne récupère pas ses déchets, en quelque sorte, on pourrait dire ça, s'il ne récupère pas ses déchets, eh bien, il rogne une partie de notre espace vital, de notre histoire. Il faut que Jésus se retire pour que nous puissions donner toute notre mesure. Aussi, oui. Même si là, en fait, ça s'adresserait à d'autres situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations...
Mais le grain, c'est lui. S'il meurt en terre, s'il pour donner beaucoup de fruits, c'est-à-dire la vie...
On peut voir ça comme ça aussi. Mais peut-être que le grain, c'est plutôt sa psyché.
Oui, c'est lui.
C'est-à-dire que c'est sa qualité de relation, sa qualité d'être, plus que sa vie au sens charnel, vous voyez. Oui, alors le fameux verset 18. Ben si, déjà, il n'y a personne ne me l'ôte, c'est-à-dire que je ne suis pas un être contraint, je suis un être libre. Quand je fais quelque chose par contrainte, méfiance, ça ne va pas. C'est pour ça que le devoir n'est pas sans poser problème dans les catégories théologiques protestantes et orthodoxes. Les orthodoxes orientaux s'interroge sur la question du devoir. Les choses faites par devoir sont problématiques. Vous voyez, la question de la charité, peut-être que je vous en reparlerai un peu dimanche, parce que je vais prêcher là-dessus, peut-être. Mais quand on rend service à quelqu'un parce qu'on est chrétien, ben, ce n'est pas sans poser problème. Si on fait quelque chose parce que c'est notre devoir de chrétien, c'est qu'il y a quand même quelque chose de malsain et d'un peu perverse là-dedans. C'est que ce n'est pas complètement gratuit. Ça veut dire que derrière cela, il y a au minimum l'image que j'ai de moi qui est en jeu. Et donc l'autre devient une sorte d'objet d'un petit manège que je joue. C'est-à-dire que l'autre me sert à me valoriser, par exemple.
C'est un miroir.
Ouais, c'est plus qu'un miroir, c'est un faire-valoir. Miroir, miroir, mon beau miroir. Encore, on laisse le miroir être miroir. Mais là, une fois de plus, on se sert sur le dos de la bête. On instrumentalise l'autre. Et ça, c'est problématique. C'est comme quand, dans certains services d'entraide, on est content d'avoir de nouveaux pauvres parce que ça permet d'obtenir de plus grosses subventions de l'État, donc d'avoir une plus grosse institution et donc d'être à la tête d'un plus gros service d'entraide. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. c'est pas très très bien. Disons que là, la grâce a un peu du mal à faire son cheminement. Donc, le verset 18, la question de la liberté qui doit être décisive dans notre façon d'être. Et donc, l'exousia, c'est pas en termes de pouvoir, d'oppression, de domination, hein, c'est en termes de je suis capable de plus que ce qui m'a été donné par mère nature, pour prendre des catégories tout à fait non théologiques. On voit que cela provoque de sévères réactions, que ça clive. Donc on reprend la controverse qu'il y avait déjà au chapitre précédent, et en fait une controverse qui ne sera jamais éteinte. Donc certains l'accusent d'être un démon, ou d'être un fou, comme on l'avait vu plus tôt. Et d'autres restent frappés par le signe de la guérison de l'aveugle-né. Et donc, vous voyez, ça ouvre en fait un champ d'interprétation. On pourrait dire, ça ouvre un espace herméneutique. C'est ce que Paul Ricoeur appelle le conflit d'interprétation. C'est-à-dire qu'une communauté est face à un seul événement, mais cet événement va être reçu de manière différente. Eh bien, le drame, ce serait que les deux camps n'en parlent pas entre eux. C'est un peu comme si on avait Karl Barth, qui est cet éléphant qui barille sur la côte, regardant au loin la baleine Bultmann, qui lance son jet d'eau dans le ciel. C'est une métaphore de Barth lui-même, pour évoquer sa relation avec Bultmann. C'est pour s'accuser lui-même de ne pas avoir réussi la rencontre. Se disant, en fait, on était sur deux paradigmes différents, on n'a jamais réussi à s'entendre. C'est même pas se mettre d'accord, c'est pas tomber sur un discours commun, c'est on n'a pas réussi à communiquer. Ah ben moi, je peux pas. Quel mal ai-je fait pour cela ? Oui.
Ils ont fini par comprendre avant qu'on comprenne bien.
Bah, donner sa psyché, hein. Sa psyché. C'est la psyché de lui. Oui, donner, offrir. En fait, c'est titémie, c'est poser. C'est comme poser les armes. Hein. Ah oui. C'est pour ça que je dis que reprendre, c'est un petit peu exagéré. C'est comme s'il donnait et qu'après il reprenait. Ça, c'est vilain. Donner, c'est donner. On est d'accord. Reprendre, c'est voler. Ça, c'est une phrase pour les parents. Si on donne la vie, il faut leur donner, il ne faut pas leur reprendre après. Mais pour les pharisiens de l'époque, est-ce qu'ils l'ont entendu, cette phrase ?
Il y a quand même des gens qui l'ont entendu, puisque...
Est-ce qu'elle a été prononcée, je veux dire ?
Pour eux, Père, c'était Dieu, c'était Dieu.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ça remet leur pouvoir. Parce que ce que fait Jésus, c'est de créer un sujet croyant, libre de toute institution, et donc libre du temple des Sadducéens, libre de l'interprétation des pharisiens, libre du délire de pureté rituelle des Esséniens, libre du désir de vengeance des Zélotes. Et donc, ce sont des gens incontrôlables. En quelque sorte, des fous de Dieu. C'est-à-dire des gens sur lesquels on n'a plus de moyens de coercition. Puisque ce sont des sujets pensants qui n'ont de compte à rendre qu'au Père directement. Au fond, ce que Jésus fait, c'est pour leur donner un modèle. C'est pour leur dire, vous aussi, vous pouvez faire comme cela. Vous aussi, vous pouvez arriver dans la vie, venir au monde, poser vos talents, les faire valoir, la situation aura gagné en justice, en équité, en harmonie, en beauté, etc. Et voilà. Et sans avoir eu besoin d'en passer par les fourches codines d'une institution. Et pas de compte à rendre à votre pasteur. Ici, ben, la bergerie, c'est tout enclos où vous trouvez refuge avec d'autres. Pardon ?
Si on trouve refuge chez place à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur qui fait si peu ?
Ah, rien, c'est que de temps en temps, le temps se gâte et qu'il fait bon se protéger. Parce qu'on voit que les voleurs peuvent aller à l'intérieur, donc en soi, on n'est pas mieux protégé à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a rien de pire que de se protéger derrière des frontières, parce qu'au moins, on est sûr de se faire attaquer. Quand on n'est pas chez soi, on ne peut pas se faire cambrioler. Enfin, on ne peut pas se faire kidnapper chez soi, vous voyez. Bon. Mais c'est un autre problème. La bergerie, il ne faut pas trop surinvestir l'image de la bergerie. Elle désigne ses associations, elle désigne ses groupements, ses rassemblements, ses communautés, ses églises, ses corps constitués. Et voilà. C'est à partir du moment où il y a un lien qui fait sens entre plusieurs personnes. Mais, vous voyez, on a dit qu'une des caractéristiques d'une vie qui est protégée de la dimension sectaire, c'est une vie qui peut entrer et sortir à volonté. Donc, à la limite, comme le disait Pasteur Regina Müller dans un documentaire, les portes, c'est bien, parce que ça permet d'être ouvert. La bergerie, en fait, elle est là aussi pour désigner l'extérieur. Et c'est ce que fait le bon berger. Il désigne le lieu où on peut aller brouter. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit ici, quand les gens viennent au culte le dimanche matin, on leur dit, vous êtes venus, bon, on est super contents. Mais vous êtes là pour sortir, en fait. Hein? C'est-à-dire que c'est le moment de la halte, mais le premier qui reste là, on lui donne des claques. Oui. Ça peut être un enclos spirituel, c'est de façon générale un enclos, parce que le spirituel peut devenir démoniaque. C'est un enclos ambigu. C'est un lieu neutre.
Il dit quand même, celui qui entend par moi sera sauvé. Tout le texte, en fait, est suivant sous cet éclairage-là.
Non, cette partie du texte, parce qu'on voit que si on est dans la première, dans la deuxième ou la troisième section, le Christ n'a pas le même rôle, n'a pas la même fonction, parce que ce sont trois proverbes différents qui ont été rassemblés en une seule unité de façon un peu artificielle. Et donc, le fait de passer par Jésus ne concerne que cette deuxième section.
Il est quand même venu pour sauver le monde.
Il est quand même venu pour sauver le monde, oui. Et oui, mais il va sauver de plusieurs menaces. Et ici, ce sont des menaces spécifiques qu'on a identifiées les unes après les autres. Menaces du gourou qui nous déstructure, menaces de la secte qui nous étouffe. Et puis ensuite, ça finit quand même avec quelque chose de positif. C'est le fait que nous sommes au bénéfice d'une action bienveillante quand même. C'est-à-dire que deux menaces et un bénéfice. Deux menaces et une promesse en quelque sorte. Oui.
On va toujours dire ça parce que c'est tellement...
Oui.
Celui qui donne la vie, celui qui la reprend, c'est peut-être pas le même personnage.
Si, c'est « je » à chaque fois. C'est conjugué à la première personne du singulier.
C'est Dieu qui donne la vie.
Non. Le verset 17.
C'est le mot qui lui a repris.
Non. Non. Enfin, moi, de ce point de vue-là, je suis calvinien, c'est-à-dire que je prends le texte au sérieux. Et donc, il faut faire une étude de la grammaire. Quand c'est écrit, la traduction est mauvaise, hein, de ce point de vue-là. C'est pas « afin de la reprendre », c'est « afin que je la reçoive à nouveau ». Donc c'est bien « je », il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est « je ». Donc, c'est bien... Oui, je dirais que la divinité, ici, c'est ce que devrait être notre humanité. C'est-à-dire que là, il y a un modèle de conduite intéressant. Et à faire, et à agir. Alors là, vous avez repéré quand même qu'il n'était pas tout à fait question du Saint-Esprit, mais vous vous souvenez que j'avais intitulé toute notre année quelque chose comme « Croire pour vivre ». Non, mais c'est le titre en fait de la séance sur le petit lit, sur la petite feuille. « Croire pour vivre » parce que Jésus est justement là pour ouvrir notre regard, notre sensibilité pour que nous puissions croire. Pourquoi croire ? Ce n'est pas juste pour augmenter le nombre de protestants connus. C'est parce que le fait de croire, comme vous le dites, c'est ce qui nous permet d'accéder à cette qualité de vie. C'est-à-dire qualité de vie, notamment parce qu'elle est sauvée de différentes menaces qui pourraient réduire notre train de vie, notre qualité de vie. Parce qu'on risque de rentrer dans des systèmes de fidélité qui... réduisent notre champ de liberté. Parce qu'on peut avoir des systèmes de soumission qui nous entravent sérieusement ou qui font qu'on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Donc on est sauvé de ces déviances religieuses, par exemple. On est sauvé de ces enfermements, on est sauvé de ces mauvaises pratiques de... On a des critères pour être vigilant. C'est pour aiguiser notre conscience.
Il vient quand même nous offrir la vie éternelle.
Oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord, mais... c'est-à-dire que...
Si on dit... À ce moment-là, c'est un bouquin. Il ne faut pas sauver le monde si on prend ça comme...
D'ailleurs, il n'est pas venu sauver le monde. Hein. Ou alors, il a loupé son coup. Mais non, il est venu. Vous voyez, là, la personne qui est sauvée, c'est la brebis qui se met à l'écoute de ces proverbes, de ces enseignements qui vont faire quelque chose. Oui. C'est-à-dire que moi, je prends le parti dans les études bibliques qui sont les nôtres de prendre les textes qu'on a et de travailler ces textes-là plutôt que de parler de ce qui n'est pas dans le texte. Mais oui, oui. Oui, et c'est en tension aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas... Non, il n'y a pas une logique, il y a des logiques. Et on le voit d'ailleurs avec ce texte où il y a trois logiques qui sont juxtaposées. Oui, mais elle est au-delà du texte biblique. Elle est au-delà des textes bibliques, cette vérité. Oui, mais cette vérité-là, elle n'est pas inscrite dans le texte. C'est que cette vérité-là, elle est justement à accueillir ensemble. Au-delà du texte qui est là pour nous dire « Ne vous endormez pas sur vos lauriers ». Maintenant, c'est le moment d'interpréter les choses. C'est pour ça qu'il y a un espace d'interprétation qui est ouvert, y compris à la fin. Et que Jésus lui-même ne fait pas consensus autour de sa parole. Il y a plutôt un dissensus. Et à partir de ce dissensus, il y a dialogue. C'est comme dans l'épisode de Babel. Ce n'est pas une punition que les gens aient des langues différentes. C'est la vraie chance pour chacun de se dire « Mais en fait, celui qui est là, je ne le comprends pas. » Alors même... que quand on parle la même langue, on peut avoir l'idée qu'on se comprend, mais en fait, on ne parle pas la même chose. On ne met pas les mêmes choses derrière les mots qui sont pourtant les mêmes. Donc le fait d'avoir des langues différentes, au moins ça supprime cette illusion qu'on se comprendrait, on fait vraiment l'effort pour se comprendre. Et du coup, des fois, deux étrangers se comprennent mieux que deux personnes qui ont la même langue maternelle. Parce qu'il y a un vrai travail, un vrai voyage, une vraie rencontre. Voilà pour ce coup-ci. La fois prochaine, ça doit être Lazare.